L'objectif dans une heure, c'est que vous sortiez de là en vous disant si ce couillon il a réussi à le faire avec des slips, moi je vais faire un truc de ouf dans ma vie. Ça vous va comme objectif ? Peut-être que cette histoire, vous l'avez déjà entendue, mais je peux vous dire, je vais raconter des trucs qui normalement devraient vous faire dire « Putain, j'ai 20 piges et je peux faire ce que je veux de ma vie, d'où, quel que soit le parcours que j'ai eu jusqu'ici. » Moi, c'est drôle, la dernière fois que je suis venu à l'ISSEC, c'était il y a 20 ans, pour passer les oraux, et je n'ai pas été retenu. Dur, hein ? Franchement, j'aimerais être à votre place aujourd'hui, et je vais vous raconter un peu le parcours de cette boîte, après vous aurez plein de questions, et je pense que dans l'histoire que j'ai vécue, vous allez vous reconnaître ou pas, mais vraiment, j'espère que... Le message que je vous passais, c'est que votre vie, elle démarre maintenant. Et que là, vous avez l'impression d'avoir passé les concours, vous avez passé un bon été, vous avez l'impression d'être en place et que tout vous attend et que vous allez tout péter. En fait, il va falloir travailler. Et le plus dur, c'est qu'il va falloir décider ce que vous voulez faire de votre vie. Et ça, personne n'a la réponse à part vous. Et en écoutant des gens comme moi, parfois, vous allez entendre un truc qui va dire « Putain, là-dessus, il a raison. » Et peut-être pas ce soir, mais dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an. Peut-être que vous avez un projet de boîte et j'espère que ça va vous aider à le démarrer. Je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans, c'est chaud. J'ai 2 enfants, ils ont 7 ans et 5 ans et j'emmène mon grand Joseph à Disneyland dimanche. Je me suis demandé si la maison hantée, ça faisait trop peur ou pas à 7 ans, vous me direz à la fin. Je suis sorti d'HEC il y a 15 ans maintenant. Dur, hein ? On se refait pas. En sortant d'HEC, comme la plupart d'entre vous, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai fait une année de césure, je suis allé faire un stage en finance à la BNP, je suis allé faire un stage en conseil chez Price à New York, c'était trop bien. J'étais en SEMS à la Bocconi à Milan, c'était trop bien. J'ai fait du commerce international, à peu près. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, et j'ai fait mon mémoire de fin d'études, je ne sais pas trop pourquoi, sur l'arrivée des burgers en France. Vous voyez, Big Fernand, tous ces trucs-là. Et ben moi, c'était 2009, et je fais mon mémoire de fin d'études sur les burgers en France. Et je me dis, ben en vrai, il y a une vraie opportunité pour monter une chaîne de burgers haut de gamme en France. Il n'y en avait aucun qui existait, donc peut-être que c'était bon. Mais je me dis, putain, monter une chaîne de burgers, ça veut dire être tous les jours dans le restaurant, quand le cuistot est malade, te pointer le samedi, le dimanche, pff, compliqué. Du coup, je me dis, ouais, je suis peut-être pas prêt. La conclusion de mon mémoire de fin d'études, c'est vas-y, il faut lancer le projet. Mais à ce moment-là, peut-être pas le courage de me lancer. Et je me dis, je vais prendre un premier job pour me rassurer. Je vais au programme, au forum carrière. Donc ça, méfiez-vous. Hein. C'est dans 4-5 ans pour vous. Mais le programme carrière, il y a plein de gens qui ont envie de vous emmener faire plein de jobs trop chiants et de vous payer super bien. Donc ça, il ne faut pas y aller. Donc moi, évidemment, je n'ai pas suivi de conseils. J'ai pris un premier job chez General Electric. Vous voyez, General Electric, G, une des plus grosses boîtes du monde. Et je rentre dans le graduate programme. Et on te dit, tu vas faire 6 mois dans un métier, 6 mois à New York, 6 mois à Londres. Je dis, OK, trop bien. Je rentre et mon premier job, c'est de faire de la compta à la Défense. Je suis en costard, en RERA, et tous les matins, je viens faire des Excel. Et toute la journée, on fait des Excel jusqu'à 23h le soir. Et ma boss, elle est allemande. Elle me dit, un soir, on commande des sushis. Je fais des Excel pour réconcilier des notes de frais pour la comptabilité du groupe. Et elle me dit, you know, Guillaume, there's going to be a lot of sushi nights. Donc là, je me dis, c'est mort. Je n'ai pas fait toutes ces études. Je ne me suis pas fait chier pour faire ça. Je me casse. Donc là, déjà, pour l'instant, ça vous semble facile, mais on en reparle. Premier job, normalement ici, autour de vous, on vous a aidé à arriver jusqu'ici. Vos parents vous ont accompagné, vos familles, on vous a soutenu. On a mis des ambitions, on a mis des moyens sur vous pour que vous arriviez ici. À la sortie, quand vous allez dire « je vais faire un truc différent », autour de vous, tout le monde va dire « ouah, c'est chaud, je t'ai payé une école, c'est pas pour que tu fasses autre chose ». Donc moi, quand j'ai dit à ma mère « je démissionne de chez General Electric », j'ai commencé à stresser un peu. Je me suis dit « ok, cette idée de burger, elle n'est pas si con, je sais que je ne veux pas faire General Electric ». Je ne me plais pas là-dedans. Et vraiment, j'ai un souvenir et je vous partage ce moment. Je vais aux chiottes de mon stage, pas de mon stage, mais ce premier job chez General Electric, à la Défense. Je me regarde dans le miroir. Et vous savez, ces moments où on n'a pas l'impression d'être dans son corps, c'est quand tu as de la fièvre. Et je me regarde et le reflet de ce gars-là en costard gris, en costard, je me dis, c'est pas OK. Il y a un truc qui ne va pas. Donc je démissionne. Et comme je n'ai pas encore le courage de me lancer dans un premier projet, je me dis, je vais prendre un job plus entrepreneurial. Et là, je vais sur l'intranet de stage d'HEC et je tombe sur une offre de stage chez Bio C'est Bon. Vous voyez Bio C'est Bon ? Supermarché bio. À l'époque, 2009-2010, il y a 3 magasins. J'écris et le patron me reçoit et je tombe sur un mec, 70 ans, costard vert, pochette rose, le mec qui prend jamais de notes, un des mecs les plus brillants que j'ai jamais vu. Il me reçoit et je lui dis, t'as pas l'air trop con, t'as l'air sympa, je t'embauche. Je sais pas combien je vais te payer, je sais même pas le job que je vais faire, mais le lundi, je démarre chez lui. Pareil, quand je dis à ma mère que je vais aller bosser dans une chaîne de supermarchés bio qui a 3 magasins et tous mes potes, hein, et en plus bah, vous allez voir, vous allez construire des parcours, vous allez nouer des amitiés trop bien et c'est trop cool. Vous avez peut-être même déjà les socles très durs à parler, très, très, très proches avec la prépa ou quoi, mais vous allez voir que vos potes aussi, quand vous allez vouloir faire un truc différent, bah, ils vont vous juger, ça n'a pas forcément été évident. Mais vous, à l'intérieur, vous aurez envie de faire un truc différent, ou pas, hein, c'est pas obligé. Mais en tout cas, se dire, ok, moi je vais aller au bout de mon idée et je vais faire ce que j'ai envie, c'est pas facile. Donc je quitte GE, je démissionne et je rentre chez Bio, c'est bon. Et là, je fais 18 mois, chambé. Je suis responsable des ventes, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Mon job, c'est de recruter les équipes, d'ouvrir les magasins, de commander les frigos, de réparer les clims et de faire en sorte que tous les samedis, les gens puissent payer à la caisse. Le groupe passe de 3 à 12 magasins. Donc moi, j'ouvre les magasins, j'ai 24 piges, je porte toujours le costard, j'ai des lunettes et je vous vois tout le monde. Genre, j'ai du mal à m'assumer, et les gens, ils ont tous 15 piges de plus que moi, et c'est moi qui dois décider des gens qu'on embauche, des gens qu'on vire parfois, et des galères. Et donc là, je suis le petit gars d'école de commerce en costard. Je vous préviens, cette étiquette d'école de commerce, elle va vous coller à la peau, et il va falloir être très bon, très humble, et très travailleur pour qu'elle s'en aille. Pour l'instant, vous vous sentez fort parce que vous êtes contre vous, mais vous allez voir, cette étiquette-là, elle est relou, et à vous de prouver qu'on n'est pas des petits gars d'école de commerce. Ok. Donc, Bio, c'est bon, 18 mois, j'apprends avec ce mentor, franchement, c'est trop bien. Donc, je vous souhaite à tous de rencontrer quelqu'un où vous allez vous dire, waouh, en fait, cette personne, elle est juste chambée, je vais écouter ce qu'elle me dit. Parfois, ils vont faire des grosses conneries, mais c'est pas grave. Et donc, je fais 18 mois chez Bio, c'est bon. La boîte grandit, mais je me dis, au bout d'un moment, franchement, ils gèrent cette boîte de façon un peu chelou. Le patron, il a 70 ans et j'arriverai jamais à vraiment me faire ma place dans cette boîte. Et peut-être, comme certains d'entre vous, du coup, j'ai 24-25 ans et je me dis, bon, j'ai envie de monter ma boîte. J'ai compris que voilà, l'entrepreneuriat, le terrain, juste le bon sens et le travail, il n'y a que ça comme règle et il n'y aura jamais que ça. J'ai envie de monter mon truc, j'ai 24 ans, j'ai pas de contraintes, j'ai pas d'appart, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfant. Il faut y aller, je cherche une idée. Donc là, normalement, il y a déjà certains d'entre vous qui commencent à se reconnaître. Je le vois d'ailleurs dans les regards de certains, dire « ouais, ça peut être moi voilà. ». J'en vois un qui me fait « ouais, ouais ». Donc là, j'ai 24 ans, je cherche une idée. Et je me dis « bon, avec quoi je peux démarrer ? Je suis jamais, j'ai jamais été le mec qui pense à 150 ans, qui va faire les batteries nucléaires, qui pense à des trucs... Mais par contre, je sais bien raconter les histoires et je sais mettre en valeur des choses a priori anodines. Et je me dis, bah, la mode, toujours bien aimé ça. Donc là, normalement, c'est le moment où vous regardez comment je suis tapé, vous dites, ouais, franchement, pas clair, mais c'est pas grave, ça me va bien. J'ai toujours bien aimé les marques. J'ai toujours aimé les marques françaises. Je vous raconterai pourquoi j'ai ce rapport à la France. J'aime les marques françaises, Hermès, Louis Vuitton, Petit Bateau, qui passe sous pavillon américain cette semaine, Roland-Garros, Air France, Paris 2024, JR, Antoine Dupont. Voilà, j'aime ce rapport à la France et ce panache, c'est ce qui fait qu'on peut être fan de cette modernité, cette audace. Et j'ai ce truc-là en moi et je me dis, marque de mode, ok, cool. En 2011, il y a des produits qui vont être plus faciles à développer. Et puis surtout, il y a un truc qui est en train d'exploser, c'est la vente en ligne. Évidemment, je parais un vieux dinosaure en disant ça, mais c'est vrai. En 2011, Instagram n'existe pas en France, pour vous dire un peu le changement qui s'est passé. Et je me dis, ok, bah, y a des catégories qui vont être plus faciles à vendre que d'autres. Les chemises, les pantalons, c'est relou, on achète. Même aujourd'hui, acheter un jean sur Internet, c'est relou, parce que si c'est pas la bonne taille, il faut l'essayer. En plus, les mecs, franchement, essayer un jean, c'est trop relou. Donc je me dis, putain, le sous-vêtement, Calvin Klein Underwear, ça fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Dim, ça faisait 500 millions d'euros à l'époque. En vrai, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger. Ça s'essaye pas. Et franchement, les mecs, on peut se le dire, quand on a un sous-vêtement qu'on aime bien, ça peut durer longtemps. Et globalement, sauf gros, alors vous êtes encore un peu jeune, mais quand on commence à avancer dans la vie, on change pas trop de style de sous-vêtement. T'es boxeur. Parfois, tu peux changer de régime matrimonial et tu vas devenir slip ou caleçon. C'est un peu ton histoire de vie, mais ça va pas arriver trop dans ta vie. Donc globalement, t'es assez fidèle à une marque. Et je me dis, ok, si je raconte une histoire cool sur les réseaux sociaux avec un bon site web, ça peut marcher. Là-dessus, je fais une étude de marché. Je vais boire des bières avec des potes dans un café qui s'appelle le Sauvignon, en bas du Bon Marché. Et petite histoire assez marrante, je discute avec des potes. C'est un pote qui part en stage à la Société Générale. On fait un pot de départ. Et il y a un de ses amis que je connais, qui est en prépa avec lui, qui s'appelle Hugo. Est-ce que vous avez vu la série Gossip Girl ? Vous voyez le prince de Monaco ? Hugo ? Il n'est pas de Monaco, c'est le prince de je ne sais pas où, si, Monaco ? Si. Bref, c'est lui. Et lui, il est fan du mot « slip ». Il me dit, et moi je lui dis, bon, écoute, moi j'ai une idée de monter une marque de sous-vêtements en ligne, fabriquée en France, ça va être cool. Et mon pote, il me dit, mec, mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas foutre à vendre des slips, surtout en ligne, ça va jamais marcher ton truc. Et je lui dis, écoute, je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français, tu vas voir, ça va péter les scores. Donc là, j'ai 24 ans, je viens de démissionner de chez Bio, c'est bon, j'ai pas d'idée, et je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie. On la tente. Donc, je n'ai jamais foutu les pieds dans une usine textile de ma vie. Mon père est assureur, ma mère bosse en RH, donc j'ai jamais aucun contact de presse, de rien. Je ne connais rien à ce métier, je ne connais rien à Internet. Et je me dis, je vais faire le slip français. Je tape sous-vêtements fabrication française dans Google et je tombe en page 17 sur une usine en Dordogne. Je me dis, magnifique, c'est Louis Vuitton, c'est l'atelier dans un plus beau village de France. Vous voyez ce label, plus beau village de France ? Voilà, Opter sur drone en Dordogne. Donc là, je me pointe, je les appelle, je leur dis, voilà, je voudrais fabriquer le slip français. Il y aura une cocarde bleu, blanc, rouge. Il y aura un petit liseré bleu, blanc, rouge et les noms auront, les sous-vêtements auront des noms de sous-marins, lanceurs d'engins, le redoutable, le vaillant, l'intrépide et le triomphant. Je lance 600 slips, je vais les chercher à Angoulême, je les ramène dans le coffre d'une voiture de location, un Picasso rouge. Sur le chemin, j'essaye les différentes tailles pour voir si le truc me va. Et en rentrant en septembre 2011, j'ouvre le site web que j'ai bricolé tout seul pendant l'été sur PrestaShop, pour ceux à qui ça parle, c'est l'ancêtre de Shopify. Et je lance le slipfrançais.fr en me disant, j'ai 600 slips, hein, des bleus, des blancs, des rouges, des noirs, j'ai un modèle et j'ai 4 produits. Et je me dis, au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie. Et je me dis, ok, franchement, mon oncle, il va m'en prendre 2, mon frère, il va en prendre 3, j'arrive à 250 et je me dis, bon, ça devrait le faire à peu près. Là-dessus, je fais un premier dossier de presse, et là, c'est un de mes master learning dans tout ce que vous allez faire. La presse, leur métier, c'est quoi ? C'est de raconter des histoires. En plus, aujourd'hui, réseaux sociaux, télé, radio, il y a une infinité de médias partout. Donc, en fait, ils ont besoin de raconter des histoires. Vous, quand vous lancez un projet, produit, service, en fait, vous leur servez la soupe si vous leur donnez du contenu sympa et décalé. Donc, je fais un dossier de presse sur PowerPoint à l'époque, un mauvais truc en 2 slides. Un des potes d'Hugo fait des photos de nos slips sur un de ses potes. Ils partent en voyage en Norvège. Il se trouve que la Norvège, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la Dordogne. Donc on a un beau gosse en slip en Norvège, mais on a l'impression que c'est la Dordogne, sur un communiqué de presse. Et je lance ça. J'ai aucun contact de presse. Et vraiment, c'est aucun. J'envoie à contact@lefigaro.fr, contact@lemonde, talala, talala, talala. Et je commence à avoir plusieurs articles. Fin d'année 2011, je fais 40 000 euros de chiffre d'affaires en auto-entrepreneur. Donc j'ai un compte d'auto-entrepreneur à la BNP. Les slips sont dans le garage de ma grand-mère dans le 7e et tous les jours, j'écris à la main sur une enveloppe avec une boîte bleue avec 3 slips à l'intérieur. Et vous voyez ces sacs Ikea bleus là ? J'amène 2 sacs Ikea bleus par jour à la poste de la rue de Sèvres. La responsable de la poste de la rue de Sèvres m'a écrit sur LinkedIn il y a 3 semaines en disant j'ai vu votre histoire, c'est trop bien, je me rappelle de vous, monsieur Slip. Donc il se foutait bien de ma gueule. Et j'amenais les slips tous les jours à la poste et je fais 40 000 euros de chiffre d'affaires sur fin 2011. Putain, c'est quand même dingo. Tout le monde se fout de ma gueule. Hein. Personne ne croit. Je vous ai pas dit, mais évidemment, personne ne croit en mon projet. Ma mère, pas du tout. Ma copine de l'époque, pas du tout. Et tous mes potes me disent, putain, gars, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Déjà, t'es parti chez Bio, c'est bon, on n'a pas compris le délire. Mais là, monter une marque de slip, c'est mort. Arrive 2012, et moi, je comprends que bah, si j'arrive à raconter des histoires, ça fait des trafics sur mon site. 2012, arrive la campagne présidentielle. J'ai l'air d'un vieux con en disant ça. Mais quand François Hollande dit le changement, c'est maintenant, moi, je me dis, bah, tu sais quoi ? J'ai 1200 slips dans le garage. J'ai compris que si je créais du contenu sur les réseaux, ça faisait du trafic sur mon site et des ventes. Bah, le changement, c'est maintenant. Moi, je dis que si on veut changer le monde, il faut changer de slip. Je dis, le changement de slip, c'est maintenant. Et là, sur une version trafiquée de Photoshop qui s'appelle GIMP, je prends l'affiche de campagne de François Hollande. Et franchement, quand j'y repense, j'étais vraiment chaud parce qu'à l'époque, vous êtes une marque, vous prenez l'affiche de campagne d'un candidat, vous mettez votre marque dessus, je pense que vous faites défoncer la tronche. Moi, c'était il y a longtemps, donc c'est passé, et je mets le changement de slip, c'est maintenant. Et là, démarre le début d'une cavalcade qui a duré 10 ans, où la création de contenu est venue amener du trafic sur le site, et vous allez voir que l'aventure en est qu'au début. Donc, je poste ça sur Facebook à l'époque, et le truc part comme une traînée de poudre. Donc, direct, tous les partages Facebook avec le lien vers le site, boum, ça emmène du trafic sur le site, on vend 4000 slips par jour. Donc là, évidemment, je ne les ai pas fabriqués, je les lance en fabrication. Et le site, il crache toutes les 2 heures, parce qu'évidemment, j'ai bricolé le truc tout seul, il n'est pas capable de tenir la cadence. Derrière, les journaux commencent à s'intéresser à ce truc, et je reçois, je m'en souviens très bien, j'avais un portant avec un seul modèle de slip en 4 couleurs, chez ma grand-mère, qui avait 75 ans à l'époque. Je suis hébergé chez elle dans une petite chambre, et j'ai des journalistes d'M6, de RTL, et de France Info qui font la queue devant pour dire « Monsieur Gibault, est-ce que c'est vraiment une marque de slip ? Est-ce que c'est vraiment fabriqué en France ? C'est quoi votre délire ? Pourquoi la campagne ?» Bref, truc de ouf, et on passe de 40 000 euros à 300 000 euros de chiffre d'affaires l'année après. 2014, j'ai 25 ans, ça fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, trop bien. 2013, bah on relance la balle, on sort une vidéo, vous l'avez peut-être vu passer, qui s'appelle « La surprise du chef », qui est une des premières vidéos de marque à vraiment avoir fait le buzz sur YouTube. On fait 1 million de vues, dont 2/3 au Japon, je ne sais même pas pourquoi. Et là, on passe de 300 000 euros à 900 000 euros de chiffre d'affaires en 2013. Donc là, j'ai 26 ans, on n'a pas levé 1 euro, c'est vraiment bootstrap total. Je vends des slips à tour de bras, je ne les ai pas fabriqués, on a tous les problèmes qualité de la terre, parce que je vous en parlerai après, mais ce n'est pas évident. On fabrique évidemment tout en France, hein, j'y reviendrai. Et 2014, on part pour faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Je commence à recruter les premiers stages qui derrière deviendront des stages de fin d'études et qui vont recruter, qui vont intégrer l'équipe. Et j'arrive un peu à la croisée des chemins. À l'époque, 2014, l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Un entrepreneur, c'est le mec qui vient faire les travaux chez vous. La BPI existe à peine, c'est vraiment le Far West, quoi. Et je suis un peu à la croisée des chemins, je me dis, ok, bah, est-ce que je me donne les moyens d'essayer de faire un truc cool ou est-ce que je vivote avec cette boîte, c'était rigolo. Évidemment, j'ai 26 ans, je vous ai raconté ce démarrage, t'as qu'une envie, c'est de faire une levée de fonds. Et donc, je fais un premier tour de table avec un fonds d'investissement qui met 2 millions d'euros et qui prend 30% de la boîte tout début 2015. Donc là, on devient start-up. Start-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dépenses de l'argent vite pour grandir, en tout cramant très vite, en espérant que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, tu pars dans le mur. Aujourd'hui, c'est un peu moins à la mode, mais à l'époque, on ne savait même pas ce que c'était. Et surtout, je ne savais pas du tout dans quoi je mettais le doigt, parce que ça n'existait pas et je n'étais pas du tout issu de ce monde-là. On lève 2 millions d'euros, et donc en devenant start-up, on recrute des gens avec de l'expérience en web et on commence à dépenser de l'argent en marketing, ce qu'on n'avait pas fait. Donc là, 2015-2016, on va doubler de taille deux fois. On va passer de 1,5 million à 3,5 millions, et de 3,5 millions à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, juste en dépensant de l'argent en marketing. À l'époque, tu dépenses 1 euro sur Facebook, ça fait 10 euros de chiffre d'affaires. C'est la folie, on court après le stock, l'écosystème start-up commence à structurer, on a plein de retombées presse. On devient un personnage de France 2, dans une émission qui n'existe plus, mais après le journal de Delahousse, il y avait un format qui s'appelait le 13h15, et tous les 15 jours, on avait 5 minutes de télé sur France 2 qui suivaient nos allers-retours dans les usines, en train d'ouvrir l'usine de chaussettes, l'usine de boxeurs, l'usine de maillots de bain. Et c'était la folie. À chaque fois, le site il tombait et on faisait que grandir. Et avec les budgets marketing importants, c'était juste dingo, quoi. On y reviendra après, mais à ce moment-là, on ouvre l'international. On ouvre une filiale à Hong Kong, on ouvre une filiale aux US, on ouvre une filiale au Japon. Moi, je commence à prendre l'avion un peu partout. Franchement, c'est la vie rêvée, quoi. C'est la startup nation à son plein. On dépense de l'argent dans tous les sens. C'est trop bien, c'est canon, ça avance trop bien. 2016, on a dépensé beaucoup d'argent, la boîte n'est pas rentable, on est start-up, on perd 1 million d'euros par an. Donc oui, on grandit en chiffre d'affaires, c'est trop bien, mais on perd 1 million d'euros par an. Et donc forcément, quand tu perds 1 million d'euros par an et que ton inventaire est grandi, il faut trouver des solutions. Et quand tu as fait une première levée de fonds, la solution c'est quoi? C'est d'en faire une deuxième, il y en a qui suivent. Et donc on fait une deuxième levée de fonds et on lève 6 millions d'euros avec un autre fonds d'investissement qui s'appelle Experience Capital Partner, qui sont ceux qui ont créé... fait grandir SMCP, Sandro Maje, Claudie Pierlot, qui ont vendu un groupe chinois et qui ont derrière créé un fonds d'investissement. Et donc, on lève 6 millions d'euros fin 2016. Là, on continue la trajectoire de dépenser en marketing et on ouvre des boutiques. En deux ans, on va ouvrir 20 boutiques dans toutes les grandes villes de France, 5 à Paris, Toulouse, Lyon, Nantes, Bordeaux. Donc là, ça explose. On passe de 8 millions à 13, puis de 13 à 19, puis 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. C'est le feu. Franchement, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, ça marche. C'est magnifique, l'entrepreneuriat vraiment à 200 à l'heure. Chambé, on a de l'argent pour avancer. On recrute des équipes, on est 110 personnes. On continue à bien avancer en web. Et donc, jusqu'en 2019, c'est un peu l'histoire parfaite qu'on adore en France, les histoires magnifiques. Mais évidemment, il y a une partie un peu plus sombre. Et tout ne peut pas être rose. Évidemment, quand on démarre, on a cette insouciance, mais on n'imagine pas qu'il peut se passer plein de trucs. 2019, on fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 110, on a 20 boutiques. La boîte commence à faire un peu d'EBITDA pour ceux qui ont pris les suppléments comptabilité, mais pas de résultat net, donc on crame encore 1 million d'euros par an. Et comme on a beaucoup de stock et que voilà, on n'a pas été très précautionneux dans la gestion, on a grandi très vite, il faut faire une troisième levée de fonds. Et donc, on est en 2019, on prend une banque d'affaires, on fait 200 slides qui expliquent à quel point on est trop fort. Et la thèse à ce moment-là, c'est de dire on fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'homme, sauf que le sous-vêtement en France, il est acheté à 50% par des femmes. On est d'accord ou pas d'accord, c'est une réalité de marché. Et donc on se dit, ok, si on lance une gamme femme, on peut faire aller bousculer Princesse Tam Tam et tous les autres. On peut faire 20 millions d'euros sur la femme, 20 plus 20, ça fait 40, et on fait une super boîte. On fait plein de slides qui expliquent à quel point on est trop fort, qu'on fabrique en France, qu'on est super rentable, qu'on est une DNVB, pour ceux qui s'en souviennent, de stratégie, de marque digitale et tout ça. On regarde les Cézanne, les Teddy Bear, toutes ces boîtes-là, on se dit qu'on est sur la même trajectoire. On fait ce process de levée de fonds, et je m'en souviens parce que c'était la date de mon anniversaire, le 17 juin, remise des offres. La semaine de la remise des offres, on fait la couverture du L, avec un modèle qui porte notre culotte. Et là, moi, je me dis... in the pocket, on est en train de dire depuis 6 mois à tout le monde qu'on veut faire la femme et on fait la couverture de L. On reçoit des offres, mais toutes les offres sont bien en dessous des attentes de valorisation qu'avaient nos fonds d'investissement en tête. On est déçus. Putain, ça fait 7-8 ans qu'on bosse là-dessus, c'est relou et tout. Du coup, on fait un peu piétiner les négos. Fin 2019 arrive, et puis ça commence à être un peu plus dur. On fait, entre guillemets, plus que 40% de croissance. On va faire 24 millions de chiffre d'affaires. On sait qu'on n'a pas beaucoup de cash, et on sait que le cash s'arrête fin mars. On avance, on prend le temps sur les négos. Les fonds qui ont mis des offres sur la table se disent « Ok, vous faites trop chier, les négos sont durs, on abandonne. » Et puis, il y a les gilets jaunes qui démarrent. Donc nous, le retail, c'est plus trop notre thèse. Puis finalement, vous pensiez faire 50% de croissance, vous avez plus de 35%, on abandonne. Je suis en exclusivité avec un fonds, un dernier. On avance et on doit signer le 19 décembre 2019. On doit remettre 6 millions d'euros dans la boîte pour écrire la suite. Moi, j'ai eu mon premier garçon, je suis épuisé, ça fait déjà 7 ans que je fais ça. Faire un process de levée de fonds, tu racontes encore et encore le même truc tout le temps, avec des gens qui ne te croient pas, c'est super dur. Et puis ça fait 6 mois que ça dure, et puis il y a 6 mois, on se croise, il y a les rois du monde, mais là, on sent que c'est un peu plus touchy, j'ai plus que ce fonds-là. Tout est bouclé, on doit tout signer, le DocuSign est prêt, on doit signer le 21 décembre 2019. La veille au soir, le fonds m'appelle, il me dit « Guillaume, on se rend compte quand même que vous faites 40% de votre chiffre d'affaires à Noël, on préfère ne pas signer tout de suite et attendre de voir la fin de l'année pour signer en janvier. » Je lui dis « Ok, bon, de toute façon, t'es un gros naze de ne pas avoir vu qu'on faisait chiffre d'affaires à Noël, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix, de toute façon, je te le dis pas, mais j'ai pas le choix. Ok, bah rendez-vous le 8 janvier. » Je pars en vacances à Noirmoutier, pour ceux qui connaissent, et je me dis « Putain, ça va être chaud, j'ai du cash jusqu'au mois de mars, si je close pas, c'est mort. » Je pars en vacances, mon fils, vous avez le temps, mais vous en voudrez ou pas, on verra, mais en tout cas, moi, mon petit faisait des otites la nuit, donc je dormais pas, j'étais défoncé. Et là, arrive l'événement qui est vraiment un moment un peu compliqué, je vous raconte. 1er janvier, ma community manager qui m'écrit me dit « Guillaume, là on a une merde. » Je dis « Putain, c'est quoi le délire ?» Et là démarre l'épisode du blackface, du gros bad buzz qu'on a eu, peut-être que vous vous en souvenez ou pas. Donc moi j'ai 120 personnes dans l'entreprise. Certains, je ne les ai jamais vus parce qu'ils sont responsables de la boutique à Nantes, à Marseille. Et bah, les gens, le week-end ou en dehors du boulot, ils font bien ce qu'ils veulent, mais il se trouve que 2 salariés de l'entreprise font une soirée blackface en dehors de l'entreprise, donc rien à voir avec nous. Et ces vidéos, évidemment, se retrouvent sur les réseaux sociaux, sont partagées, et en 2 secondes, les gens font l'amalgame entre l'entreprise, ces 2 personnes, et comme on est le slip français, et qu'on sort d'école de commerce, et qu'on a bien sous tout rapport. Et je vous invite 2 secondes à faire un exercice de lucidité en regardant l'audience ici aujourd'hui. On dit amalgame total entre l'entreprise et le comportement privé de 2 personnes dans la sphère privée. Donc là, je vis un événement que je ne souhaite à personne, qui a été de loin l'événement le plus chiant à gérer. Donc j'essaie de gérer ça du moins mal que je peux. C'est une crise qui est avant tout humaine, parce que je dois gérer le spectre de 120 personnes entre, d'un côté, une militante antiraciste qui est une de nos employés de nos boutiques, de la boutique de Charonne, qui démissionne minute 1. Au milieu, le patron du CSE, Geoffrey, un Guadeloupéen de 2 mètres, que j'adore, qui me dit « Guillaume, ils sont où? Je vais leur péter la gueule. » Les 2 personnes en question et les potes d'école de commerce des 2 personnes en question qui disent « Est-ce qu'un employeur peut, doit sanctionner un salarié pour le comportement dans la sphère privée ?» Question philosophique, vous avez 4 heures. Donc j'essaie de gérer cette crise et moi je sais que mon job c'est de faire l'unité dans les salariés, de défendre tout le monde, d'essayer de trouver le juste milieu. Crise juridique, est-ce qu'en tant qu'employeur j'ai un avis là-dessus? Est-ce que je dois sanctionner, pas sanctionner? Moi je sais instantanément que c'est impossible de garder ces 2 personnes dans l'entreprise, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord, pas d'accord, tu peux pas vivre dans une entreprise avec tout le monde qui se dit « Alors, ils sont là, ils sont pas là. » Impossible. Donc juridique, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, dans quel timing, comment je gère ça? Communication, bien sûr. Bah, on se fait péter des vitrines. On reçoit des lettres de menaces. On se fait défoncer sur les réseaux sociaux. Il y a genre 150 articles de presse. Et crise la moins grave, mais business, évidemment, les ventes sont un peu impactées, mais finalement pas tant. C'est pas le truc le plus chiant. Parce que en fait, la plupart des gens, nos clients, ils ont 40 ans, ils n'ont pas vraiment vu le délire. D'ailleurs, je fais un sondage à main levée, et vraiment, sentez-vous libre, hein, c'est pas un jugement. Qui est client chez moi ici, au Slip français? trop cool, merci, mais assez peu. Et c'est OK, hein. Il n'y a pas de jugement, mais pour vous dire que les gens qui voient surtout les réseaux sociaux, c'est plutôt votre âge et ce n'est pas tellement mes clients. Donc en fait, quand on est dans ce moment-là, quand il y a Quotidien qui vient vous voir et qui vous tend le micro-perche et tout, en fait, vous êtes dans la merde totale et vous vous faites une idée d'un truc qui n'est pas la réalité forcément de vos clients. On pourra y revenir après. En tout cas, moment lourd. Et du coup, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'avais du cash jusqu'au mois de mars. Donc là, on est le 4 janvier et moi, le 8 janvier, j'ai rendez-vous avec le fonds d'investissement. Donc là, je me pimpe un peu et j'essaie de leur dire qu'on a été trop fort. Et je leur dis, oui, vous avez dû voir passer la crise. Bah, écoutez, on a géré, on a bien expliqué, c'est bon, c'est derrière. Et là, le fonds d'investissement me dit, écoute, Guillaume, étant donné le contexte, on ne va pas pouvoir donner suite. Donc là, on est le 8 janvier 2020. J'ai du cash pour 4-8 semaines devant moi. Et je me dis, bon, bah, ça y est, game over. Tu as joué, tu t'es éclaté, tu as pris beaucoup de risques, tu as incarné une idée, mais ça y est, c'est fini. Et j'ai un petit garçon qui ne dort pas la nuit, hein, mais ça, c'est on the side. Et je me dis, putain, ça va être chaud. Je négocie avec mes fonds d'investissement qui remettent 3 millions d'euros. On est le 10 février et je me dis, putain, l'année 2020, ça va être dur. Je vais devoir virer la moitié des gens. Ça va être... Quel âge j'ai 2020, j'ai 30 ans. Je me dis, wow, chaud. Qu'est-ce qui peut bien nous arriver de pire? Et là, mars 2020, Covid. Donc là, je me dis, bon, écoute, c'est quoi, mon gars? De toute façon, c'est mort. Tu vas plier la boîte et c'est tellement la merde que les gens oublieront cette histoire et ça ne sera pas de ta faute, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Covid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est fermé, tout s'arrête, toutes les usines. Et là, je me dis, putain, ok, vraiment, tu as eu beaucoup de chance pour toi, tu as bien cartonné plusieurs années, maintenant c'est mort, tu vas vraiment morfler et il ne va rien se passer, tu vas planter ta boîte, c'est fini, ça fait 8 ans, 9 ans, c'est fini. Et en fait, 2020, dans les premiers jours, il ne se passe rien. Tu n'as plus aucune commande sur ton site, il n'y a plus de thunes qui rentrent. J'ai déjà plus de thunes, mais il n'y a plus de thunes qui rentrent. Et je me dis, ça va être l'enfer. Et puis finalement, au bout de 3-4 jours, les commandes reprennent. Une fois que les gens sont confinés, en fait, tu es confiné, tu es parti dans une maison, tu as besoin de quoi? De slip, de chaussettes et de pyjama. Et puis en plus, comme tu es parti vite, tu es parti sans. Donc en fait, on commence à exploser les scores sur le site. Et en plus de ça, la BPI sort le PGE et toutes les garanties et met en place tout un écosystème et le chômage partiel qui va permettre de sauver les boîtes. Donc en fait, au bout de quelques semaines, je me dis, putain, en fait, on peut peut-être s'en sortir de cette année 2020. Et derrière, je me dis, ok, j'ai vécu un moment vraiment pas cool. Pourquoi est-ce que je fais ça? Moi, j'ai écrit sur un coin de table il y a 15 ans, il y a 10 ans, vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Et je me dis, dans ce bordel qu'est le Covid, j'aimerais bien rendre ma boîte utile. Et là, je vois passer sur Twitter un patronage de masques. Vous vous souvenez le délire des masques? Catégorie 1, catégorie 2, je peux pas le mettre, faut que je le lave, tout ce délire. Tout premier jour, il n'y a pas de masque en France. Et tous les ateliers textiles avec qui on bosse, donc à l'époque, je bosse avec 80 partenaires partout en France, ils se posent tous la même question. Comment on fabrique? Avec quelle matière? Avec quel élastique? Quel taux de TVA si on les vend? Est-ce que les masques, on les donne? On les vend? Est-ce qu'on les donne d'abord aux écoles, aux hôpitaux ou aux boulangers du coin de la rue? Quelle est la norme réglementaire? Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce catégorie 1, catégorie 2? Et là, j'écris au comité stratégique de filière qui est lié à Bercy, ministère de l'économie et des finances, et je leur dis, si vous voulez, moi je coordonne toute l'année tous les ateliers français, si vous voulez, je vous aide à structurer la filière des masques. Et je dis ok, et je me retrouve dans une cellule de travail avec le ministère de l'économie et des finances. Je me retrouve sur une visio avec celle dont je vous parlerai après, qui est aujourd'hui directrice générale avec moi, Léa Marie, qui est à l'IFTH, qui est dans l'institut textile qui teste les masques, est-ce qu'ils sont valables ou pas. On se retrouve dans une visio, et le ministre nous dit ok, c'est le bordel, il faut un, qu'on fabrique des masques le plus vite, et deux, qu'on arrive à compter pour pouvoir dire et rassurer les gens, de dire combien on arrive à fabriquer de masques par jour. Moi, je fais un truc qu'aucun des énarques et de tous les gens chez Bercy font, c'est-à-dire que quand tu bosses à Bercy, tu n'as pas accès à Google, parce que tu n'es que sur des boîtes mail sécurisées, c'est plutôt bien, mais du coup, ils n'ont pas WhatsApp, ils n'ont pas Google, et moi, je leur dis, si tous les ateliers doivent passer par Bercy pour savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver la matière pour fabriquer des masques, en fait, on va mettre des années à fabriquer. On va faire un truc très simple. Un, on va ouvrir un groupe WhatsApp. Donc j'ouvre un groupe WhatsApp, dont mon WhatsApp perso, des 80 ateliers textiles que je connais. Au bout de 3 semaines, il y en a 1400. Et j'ouvre un fichier Google Sheet sur mon drive perso, où je fais un truc très simple. Je mets les fabricants de matière, onglet 1, les confectionneurs, onglet 2, et onglet 3, on fait descendre toutes les demandes du gouvernement, des hôpitaux, des écoles, etc. dans le même ordre. Ce fichier Google Sheet est devenu le fichier Google Sheet le plus utilisé de France dans l'année 2020. Et c'est devenu un Google Case aux États-Unis qui s'appelle Savoir Faire Ensemble, comment les Français ont utilisé Google pour sauver les masques. assez panache. Et j'ai mis 10 personnes de l'équipe du slip à disposition qui appelaient tous les jours les ateliers en disant « Ok, je te donne tes mots de passe Google » parce qu'évidemment, quand on a un atelier français et qu'on fabrique des masques, vous avez une boîte de 50 personnes, vous fabriquez des masques toute l'année, vous avez un ordi pour la boîte et vous ne savez pas accéder à un Google Sheet. Donc les gars du slip, ils appelaient, ils accompagnaient pour qu'ils arrivent à se loguer, trouver le mot de passe et trouver l'endroit, les entreprises pour appeler, trouver la matière, fabriquer et livrer. En un an, on a coordonné l'action de 1200 boîtes pour fabriquer 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux. Et franchement, par rapport à mon début d'année 2020, ce truc-là a juste été, à ce jour, moi, je vous ai posé la question, on y reviendra après, de quoi vous serez fier dans 10 ans. Ben, moi, je peux vous dire que ce truc-là, c'est de loin le truc dont je suis le plus fier. Je vous enverrai un lien où on voit en plus de ça les ouvrières dans les usines qui sont venues bosser le 21 mars. Et franchement, il fallait avoir des guts pour venir bosser le 21 mars quand on savait rien. Au tout début, vous vous souvenez, on mettait les courses dehors en attendant deux jours. Les femmes, elles sont, et c'est des femmes, 95% de femmes, elles sont venues travailler à l'usine pour fabriquer des masques. Et ça a mis une lumière de ouf sur notre filière. Et moi, je suis hyper, hyper, hyper fier de cet épisode-là qui, comme vous l'avez vu, n'était pas du tout prévu et qui repose juste sur un « putain, en fait, je vais essayer de faire un truc différent ». Donc ça, c'est 2020. Et là, année complètement rocambolesque, on démarre l'année en se disant on ne sait pas si on va tenir 3 semaines et on fait la meilleure année 2020, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions d'EBITDA. Et je me dis, OK, ça y est, c'est le monde d'après. Enfin, les gens vont acheter que fabriqué local. Ça va être que le Made in France. Ça y est, enfin, ce que tu avais imaginé il y a 15 piges, ça va être vrai. 2021, ça continue comme ça, truc de ouf. Et 2022... Voilà, tout le monde se dit tout est possible. Moi, je me rends pas compte à quel point je suis épuisé de tout ça, et à quel point j'ai pris cher, à quel point l'épisode du Blackface, ça m'a vraiment remué. Et du coup, j'ai qu'une envie, c'est de vendre ma boîte, c'est d'arrêter. Et je me dis, OK, pour vendre ta boîte, il faut un peu l'histoire d'après. Parce que quelqu'un qui rachète, il ne rachète pas l'histoire de maintenant, il rachète l'histoire de l'après. Et je me dis, l'histoire d'après, c'est plus une marque de sous-vêtements. En plus, cette cocarde. Moi, après tout ce que j'ai vécu, j'ai plus envie de faire des blagues. J'ai plus envie d'être le gars qui fait des blagues avec le bleu, blanc, rouge. J'ai pris trop cher. OK, le Covid, c'était super, mais en fait, intérieurement, cette énergie de l'entrepreneur, je ne l'ai plus parce que j'ai plus envie, j'ai pris trop cher. Et du coup, mon lien avec la France, moi, mon arrière-grand-père, il est arrivé en France en 1924. Il ne parlait pas le français. Il est ingénieur électricien. Et il a monté sa boîte vraiment de zéro. J'aime Joseph Kessel, Romain Gary, j'aime les gens de partout qui racontent la France, justement ce qu'elle a d'universel et de ce pourquoi on fait des choses de ouf en France. Et cet épisode-là, il est à l'inverse de ce pourquoi j'ai monté ma boîte. Donc, impossible pour moi. Et donc, je me dis, OK, cette cocarde, je ne peux plus l'avoir en peinture. On change de logo et on va dire qu'on devient une marque de mode désirable. On va faire des vêtements, des fringues pour femmes, pour enfants et on va vendre la boîte. Et là, je sors de la règle d'or de l'entrepreneuriat et des projets en général. Si vous sortez de ce qui est vrai pour vous et de ce pourquoi vous faites les choses, vous êtes dead et c'est même pas la peine de commencer. On a enlevé cette cocarde et les clients, ils en avaient rien à foutre. Ils se sont dit, en fait, on comprend pas. On avait un slip qu'on adorait avec une cocarde, pourquoi vous nous l'avez enlevé? Vous, ce que vous avez vécu, on s'en fout, c'est pas notre sujet. Nous, on est attachés à ce truc-là. Et donc, 2022-2023, on perd 2 fois 10% de chiffre d'affaires. On passe de 25 à 18 millions en 2023. Et donc, rebelote, fin 2023, putain, on n'a plus de cash. Sauf que là, c'est un peu la crise économique autour de nous, guerre en Ukraine, inflation. Plus personne va refinancer la boîte, puisqu'on a déjà fait 2 tours, ils ont remis de l'argent. Et je me dis, OK, on vend des slips à 40 balles. C'est un produit cadeau, j'espère qu'on vous l'a offert. Mais en fait, 40 balles de sous-vêtements, ce n'est pas un modèle économique. OK, c'est fabriqué en France. OK, Gibo, il est sympa, il raconte l'histoire. Mais en fait, je l'ai acheté 3 fois. En fait, j'achète Calvin Klein. Parce que le produit, il est bon, que la publicité, elle défonce, que le mec, il est beau, et que 3 slips Calvin Klein, ça vaut 45 balles. Et donc là, chacun dans nos vêtements, là, dans quelle mesure, vraiment, on est engagé, on a de l'impact, on est tous en Véja Patagonia? Pas vraiment. Hein. Donc ça, ça va être la question pour vous. Et donc, seule option, 2024, tout péter, revenir à ce qu'est le slip français, une marque d'équipement décalée, rigolote, avec une belle cocarde, très fier de ce qu'on est. Et en 2024, on prend le plus gros risque, on se dit, OK, 40 balles, ce n'est pas un modèle économique, on va diviser le prix par 2, faire la révolution, lancer 400 000 pièces, ce qu'on a réussi à faire en 2024. Et en 2025, à ce jour-là, on a retrouvé 2 fois 10% de croissance. Et en 2025, j'espère qu'on va réussir à faire 22-23 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2,5 millions d'EBITDA et 250 000 euros de résultats nets positifs si on y arrive. On est 40 personnes au slip à Paris dans le deuxième et on a ouvert notre usine à Aubervilliers. On a 50 personnes qui fabriquent 3000 slips par jour. Et je suis l'heureux fabricant de slips le plus rapide de France. Et je peux vous dire que voilà, après ce parcours-là, je mesure chaque mot de ce que j'ai dit il y a 15 ans, de dire que si on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. Et j'espère que vous dites en me voyant ce soir que putain, le gars, il en a vu de toutes les couleurs. Mais en tout cas, et je finirai par là avant de passer aux questions, moi, dans ces 15 ans, à aucun moment, j'ai eu le sentiment de travailler. J'ai pas arrêté, je compte pas les heures, j'ai des gros coups de stress, j'ai des grosses réussites, j'ai des grosses déceptions, mais j'ai jamais eu l'impression de travailler, et à chaque minute, je suis fier de ce qu'on fait. Il y a des trucs qu'on rate, des trucs qu'on fait très bien, mais je suis fier de ce qu'on fait, et j'ai l'impression que ça fait du sens et que ça fait avancer les choses dans le bon sens. Donc, dans un monde où on n'a plus de Premier ministre depuis hier, et où c'est la merde, et ça sera la merde autour de vous pendant toutes les années à venir, ne vous posez même pas cette question, vous n'aurez pas de retraite. Donc, trouvez les solutions vous-même, et en vrai, c'est ça qui kiffe. Donc, je suis heureux d'être ici devant vous pour vous dire que tout est devant vous, mais que franchement, je paierais très très cher pour être à votre place. Alors, avant de passer aux questions, je vous ai fait bosser sur un petit exo, parce que, évidemment, vous avez compris, moi, je sors d'HEC, donc quand Stéphane m'a écrit en disant « Est-ce que tu veux venir pitcher à l'ESSEC ?» J'ai dit « C'est mort ». Et surtout, je ne veux pas me retrouver, parce que moi, je me souviens, quand j'ai fait cette conférence en début, je n'ai pas vraiment écouté le mec sur l'audience. Je l'avoue. Donc, j'espère que vous m'avez un peu écouté quand même. Mais je me suis dit, je n'ai pas envie d'être dans la posture où je raconte un truc et eux, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Donc, en fait, je vous ai posé la question à vous et vous avez répondu dans ce nuage de mots de ce dont vous serez fier dans 10 piges. Et je vous propose qu'avant que vous posiez les questions, vous regardiez ce que vous avez dit. Et là, c'est chacun de vous. Vous n'avez peut-être pas partagé avec vos potes autour de vous. Mais moi, j'ai trouvé que, franchement, c'est quand même assez cool. Et moi, j'ai trouvé que ça résonnait avec ce que je viens de vous raconter. Donc, le plus gros, le mot le plus important, c'est l'entreprise. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont dit créer la mienne. C'est pas moi qui les ai mis les mots, c'est vous. Hein. L'impact, c'est quoi l'impact? Et est-ce que vous allez aller au bout de vos convictions? Le travail. La famille, c'est vachement ressorti. L'équilibre entre le pro et le perso. Ça, je peux vous dire, je vous préviens, ça sera le plus gros challenge. La famille, ça va avec. Aider. Et l'association. Donc en gros, vous avez tous dit, je veux monter ma boîte, être une entreprise d'impact. Soutenir une association et avoir un bon équilibre pro-perso. C'est un peu un résumé bullshit, mais c'est le vôtre en même temps. Et il y a un voyage au milieu qui est assez cool. Donc voilà, je vous propose de regarder ces mots avant de passer à vos questions, que j'espère nombreuses. Normalement, la première question est la plus dure. En tout cas, moi, j'étais ravi de vous raconter cette histoire.
Merci, Guillaume. Et oui, pour cette histoire, je propose cette question. Est-ce qu'on a, on a encore 20 minutes? Est-ce qu'il y a des questions? Do we have questions for you? Yes.
Est-ce que le fait d'avoir lancé votre entreprise seule, ça vous a fait peur au début ou pas?
Alors, c'est une très très bonne question. Au début, ça ne m'a pas fait peur, mais je pense parce que je ne me rendais pas compte de ce que c'était. Monter sa boîte seule, c'est super dur. Alors, ça a des avantages, tu vas plus vite, tout ça, mais c'est super dur. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé vraiment une associée avec Léa, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je l'ai rencontrée totalement par hasard pendant l'épisode du Covid. Et aujourd'hui, elle est associée avec moi, directrice générale. Et franchement, on est à deux, ça change tout. Parce que dans les bons moments comme dans les mauvais, t'es pas tout seul, tu peux partager. Parfois, tu t'engueules. C'est super dur parce qu'en plus, quand tu démarres, bah, ça change vite, les rôles changent vite, les attentes peuvent changer. Vous avez tous parlé d'équilibre. Bah, quand il y a des enfants qui arrivent ou des projets de vie, bah, voilà, tout de suite, c'est un équilibre différent. Mais je pense que c'est très, très, très difficile de monter une boîte tout seul. Et moi, heureusement que j'ai trouvé quelqu'un en chemin. Après, voilà, les rencontres, c'est pas une science exacte, quoi. Donc, en tout cas, je crois qu'il faut les provoquer. Et oui, en tout cas, la réponse, elle est claire. C'est plus facile et je pense que ça a plus de chances de succès quand on le fait à plusieurs que tout seul.
Merci pour la conférence. J'ai une question. Quelles sont les barrières pour produire du textile en France?
Alors, les barrières, il y a à peu près toutes les barrières. Pour vous faire un petit panorama, donc le textile dans les années 90, il y avait 600 000 emplois. Aujourd'hui, il y en a 100 000. Donc, il y a 1500 entreprises. 90% des entreprises ont mis la clé sous la porte. C'est que des boîtes familiales, transmission, donc ça va être deuxième, troisième génération. C'est très usé, c'est très fatigué. Donc, la première, c'est une barrière morale. Vraiment, genre, on va avoir une nouvelle usine, on lui dit « Est-ce que vous pouvez fabriquer ça ?»« Waouh, c'est compliqué. » On va vous fabriquer le prototype, mais ça va durer 4 semaines, et puis ça va coûter très cher. En attendant, le chinois, le bangladais, le portugais, l'indien, ils ont déjà envoyé 4 prototypes. Moi, je me fais démarcher tous les jours. Le DHL, il arrive dans les 24 heures. D'un produit top qualité, top prix. Donc la première barrière, elle est morale parce que le textile en France, c'est cata, quoi. Cata. Ensuite, du coup, une fois que tu as passé cette barrière morale et que, comme moi, tu te dis j'ai envie de raconter cette histoire un peu coûte que coûte, bah, la deuxième barrière, c'est le prix. Le SMIC en France, c'est 1753 euros. Rien qu'au Portugal, c'est la moitié. Donc l'équation, elle est simple. Un slip, c'est 50-60% de temps humain de confection. Donc quand 50-60% du temps humain, il vaut deux fois moins cher ou 3, 4, 5, 6 fois, bah, en fait, ton produit vaut beaucoup moins cher. Donc nous, aujourd'hui, grâce à notre usine Bonne Nouvelle, un sous-vêtement, ça nous coûte 6 euros à fabriquer. On est presque aussi compétitif que le Portugal. En Chine, ça vaut 2 euros. Et c'est le même temps, c'est la même machine. La différence, c'est les conditions dans lesquelles on emploie la personne qui, en Chine, va bosser pour très peu de dollars par semaine, sans limite de temps, sans congé payé. Sans... Voilà. Donc en fait, ce qu'on défend à savoir-faire égal, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les usines partout dans le monde, elles sont souvent bien meilleures que les nôtres. Donc ce qu'on défend, c'est notre modèle auquel on croit tous ici, normalement, qui est de rééquilibrer, de partager, de protéger les gens, assurance maladie, assurance chômage, les 5 semaines de congé payé, tout ça. Donc, ça fait déjà de bonnes barrières. En vrai, c'est presque impossible de fabriquer en France. Et je pense que si je connaissais le métier, je ne l'aurais pas fait. Je pense que quand j'ai démarré avec 15 piges, il fallait être vraiment insouciant pour le faire. Yes.
Merci beaucoup pour votre conférence. C'est vraiment super, très intéressant. Moi, j'ai une question par rapport aux levées de fonds. Comment est-ce qu'on fait pour approcher un fonds d'investissement et pour les convaincre sur la base donc, de votre histoire et du slip français? Merci.
Écoute, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez cadré, hein, les levées de fonds. C'est toujours super dur. Pour tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est 100 rendez-vous et en fait, à la fin, il en reste 2 et il n'y en a qu'un seul qui fait le deal. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut une bonne histoire, une bonne équipe et un bon marché. Et je pense que le reste a moins d'importance. Et le fonds, son métier, à l'inverse, si tu réfléchis à ça, le fonds, il va choisir l'équipe et le marché. Parce que vous l'avez vu dans mon histoire, en fait, le marché, il change, le modèle, il change, mais par contre, ce qu'un fonds va choisir, c'est il va parier sur l'équipe, il va dire, eux, ils sont capables de changer, de se réinventer, de s'adapter. Donc pour moi, en plus, aujourd'hui, c'est presque tellement standardisé, toutes les presses se ressemblent, donc moi je dirais de faire un truc super différent, de bien aller voir les fonds qui sont aussi spécifiques à ce que tu recherches, de regarder où est-ce qu'ils ont investi, de ne pas perdre son temps à aller voir 200 milliards de fonds d'investissement, ça ne sert à rien, mais d'être vraiment précis sur ce que tu cherches et de faire un truc très différent. Il faut que tu te dises, ils vont voir 15 personnes, comment tu fais en sorte qu'à la fin de la journée, c'est toi qu'ils ont retenu.
Bonjour. Je voulais vous demander à partir de quelle étape dans votre parcours vous avez arrêté de travailler seul et vous avez commencé à recruter des équipes, etc. Merci.
Écoute, assez vite. On a la chance en France, quand on démarre, on démarre tous voilà, avec des stages, des alternants. Et en vrai, ça peut être une super façon de tester s'il y a un job et derrière d'embaucher les gens. Donc moi, au bout de 8 mois, j'ai commencé à m'entourer et j'ai eu la chance pendant les 7 premières années personne n'est parti de la boîte, c'était assez dingue, donc on a pris que des gens souvent en stage, en alternance et puis on les a recrutés à la fin. Donc ouais, s'entourer assez vite c'est un conseil que je donne souvent.
Bonjour, merci pour votre conférence. J'ai une question sur le marketing. Il me semble que dans des marchés comme par exemple le slip ou même l'eau, il y a pas mal d'études de cas dessus. Le marketing, il est absolument essentiel. Et donc, je voulais savoir, selon vous, quelles sont les clés pour se lancer dans un marché que vous nommez comme banal, entre guillemets.
C'est un peu la même réponse que pour les levées de fonds. Il faut faire un truc ultra, ultra différent. Aujourd'hui, tout existe dans tous les marchés, mais quand les gens font les choses vraiment différemment et avec beaucoup de conviction, d'alignement et de la prise de risque, ça marche. Et je pense aujourd'hui, vous avez TikTok. Franchement, moi, je suis trop vieux, mais moi, si j'ai qu'un seul conseil quand tu démarres aujourd'hui, c'est juste de poncer TikTok jusqu'à trouver la solution. Et après, de le convertir sur autre chose, sur Instagram, sur d'autres réseaux, mais aujourd'hui, et LinkedIn aussi, Mais aujourd'hui, sur un marché de consumer, ce qu'il faut, c'est exister. Donc, penser à des actions fortes et des coûts de communication forts. Et derrière, ce que je vous disais sur les RP, ça, c'est clé aussi. Parce que souvent, on néglige ça. Et d'ailleurs, moi, je vois plein de jeunes qui démarrent en disant « On va faire du funnel d'acquisition, la conversion, là, je suis pas bon sur ça. » En fait, arrêtez ça. Ça, vous faites le jeu de Facebook, d'Instagram. Ça se saurait s'il fallait juste faire de la pub pour faire exister un business. Non, en fait, trouvez une bonne idée, une vraie différence de produit, de communication. Et si vous êtes bon en organique, en fait, ça va marcher. Et seulement après, une fois qu'il y a un truc qui existe, qui a un peu d'intérêt, là, on commence à se poser des questions de pouvoir investir. Mais il ne faut pas renverser le truc. Donc moi, tous les trucs qu'on voit passer de dropshipping et autres conneries, si on vous vend le truc ou ça paraît facile, ben en fait, ce n'est pas la vérité. Le vrai conseil simple, c'est des bonnes idées. C'est une phrase de Jacques Séguéla qui dit ça, qui dit... je vais essayer de la faire dans le bon ordre. Il dit l'argent n'achète pas les idées, mais les bonnes idées font de l'argent. Et c'est vraiment ça. Franchement, trouver des idées simples auxquelles vous croyez, parce que vous avez vu que moi, ça fait 15 piges que je raconte cette histoire de slip et de fabrication française. Trouver des idées qui te ressemblent. Et derrière, dans la forme, fais-toi confiance, tente des trucs. Et TikTok ou LinkedIn, mais on en voit passer souvent, hein, des marques qui arrivent à se démarquer. Et la presse, vraiment. Envoyer des colis de vos produits aux journaux télé, c'est à l'ancienne, mais en fait, ça marche. Et surfer l'actualité. Nous, on a sorti le slip de confiance lundi. Et demain, on a un mec qui enlève son slip avec sa braguette qui dit éviter le blocage. Donc voilà, essayer de trouver des façons de surfer l'actualité, ça, c'est simple, mais ça marche toujours.
Bonjour, je voulais savoir comment est-ce que vous aviez géré la crise médiatique que vous avez connue. Merci beaucoup.
Écoute, du moins mal que je peux, on a pris une agence de communication de crise. Premier conseil de l'agence de communication de crise, c'est ça serait bien de se voir 6 mois avant pour pouvoir anticiper les crises. Ok. Voilà. Avec du recul, la seule chose à dire dans cette affaire, c'est de dire ça n'a rien à voir avec l'entreprise et d'accepter de fermer sa gueule. Mais ça, c'est dur. Moi, j'ai monté la boîte de toutes pièces. Et quand j'ai Quotidien qui m'appelle et qui me dit soit on va faire un micro-trottoir devant la boutique, soit vous acceptez de nous répondre aux questions au bureau, bah, je dis venez au bureau. Mais en fait, j'aurais dû dire en fait, bah, allez devant la boutique. Donc c'est dur parce qu'il faut faire la part des choses entre toi, ce que tu ressens, ce que tu penses et ton rôle. Et souvent, parce que des crises médiatiques, je ne vous le souhaite pas, mais je pense que tout le monde, de près ou de loin, en aura une à gérer. Je pense que cette histoire, elle doit aussi vraiment vous faire réfléchir, hein, à votre parcours, à vous, votre vie perso par rapport à votre visibilité. Vous démarrez un cycle de 4-5 ans d'école de commerce, et tant mieux, mais voilà. On va s'amuser, vous allez vous amuser, vous allez grandir, vous allez faire des conneries aussi, c'est normal, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Et je pense que comme dans tout, en fait, il faut rester cohérent et sincère. Et parfois... Quand tu prends des conseils, nous on a pris une agence de com de crise, je suis pas sûr qu'ils nous aient vraiment... Tu vois, ils nous ont vraiment poussé à un peu surcommuniquer, à prendre la parole tout de suite et tout, alors qu'en fait, on s'en fout quoi. Enfin, tu vois, on s'en fout pas, non, mais... Là, on a eu une dépêche AFP, on a eu 200 articles de presse, c'était la veille du Covid, c'était disproportionné en tout cas. Mais quand tu es au cœur du truc, tu as envie de dire plein de trucs, mais en fait, il n'y avait juste rien à dire, que ça n'a rien à voir avec la boîte, en fait.
Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Dimanche, vous allez donc à Disneyland avec vos enfants.
Yes.
Mais comme vous l'avez dit, on vit dans un monde plein d'incertitudes. Et donc, vous serez amené très rapidement à gérer des crises qui vont vous prendre énormément de temps. Alors, comment vous arrivez à gérer vie de famille et vie d'entreprise, sachant que vous êtes un grand chef d'entreprise et qu'aujourd'hui, vous allez devoir mettre énormément de temps dans cette entreprise. Donc, est-ce que vous ne vous dites pas qu'à un moment, vous êtes un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets ?
Je crois qu'il a envie de placer cette phrase depuis le début de la question. Bah, c'est super dur et vous allez tous le vivre. Et quel que soit que vous soyez entrepreneur ou pas, normalement, vous êtes destiné à faire des projets, en tout cas, je vous le souhaite, et faire des projets dans lesquels vous allez être passionné, que ce soit l'entrepreneuriat artistique ou associatif, ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vous encourage à faire les choses à fond. Et du coup, bah, ça va être difficile de trouver votre équilibre. Il y a des moments où vous allez galérer, il y a des moments où ça va être super dur. Et là, je vais vous dire un truc, je pense que vous en souviendrez. Il va se passer entre maintenant et vos 30 piges une continuité de ce que vous avez vécu jusque-là. Jusque-là, normalement, ça a bien marché pour vous. Tout le monde est fier de vous, c'est trop bien. ça va continuer. Vous allez sortir de l'école, ça va bien se passer. Les 5 premières années, vous n'allez pas trop prendre de risques normalement, ou un peu, mais ça va bien se passer. Et vers 34-35 ans, là, vous aurez peut-être un entourage professionnel ou peut-être vous prendrez une première mauvaise décision, vous allez prendre un peu plus de contraintes dans votre vie familiale. Et là, vous aurez vraiment cette question et vous vous souviendrez de ce moment, de dire « Putain, il avait raison ce con, le mec du slip. Je galère. » Donc moi, chaque jour, bah, y a des jours où je veux aller à Disneyland et je ne peux pas y aller. Et malheureusement et heureusement, bah, avec ton téléphone, tu gères plein de trucs. Mais c'est dur de déconnecter. Il faut une bonne équipe, une bonne organisation. Et ouais, c'est dur. C'est, franchement, il n'y a pas de vraie bonne solution. Continuer à essayer d'avoir une vie saine, faire du sport, avoir des potes et voilà, essayer de penser à autre chose. Mais malheureusement, il n'y a pas de secret. Si vous voulez faire des choses avec de l'impact et de l'ambition, vous allez devoir y mettre les heures. Et il n'y a pas de raccourci à ça. Et c'est pas mal ou bien, c'est comme ça. Donc l'équilibre familial, pro-perso, il est difficile à trouver. Mais je pense que la vraie solution, elle est dans ne pas se mentir. Et de se dire, ok, bah, moi je veux un équilibre où j'accepte d'avoir un truc un peu déséquilibré, mais de bien le vivre, d'être clair avec vos conjoints, les gens autour de vous, d'être clair avec vos enfants quand vous en aurez ou pas, mais ouais, d'être droit dans votre slip et pas le cul entre vos chaises, si je peux me permettre.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a un moment, vous parliez, vous disiez que l'entreprise elle avait pris un tournant quand vous aviez augmenté massivement les ventes et vous aviez baissé drastiquement les prix. Mais comment vous avez pu faire tout ça tout en restant en France ? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait pas mal de contraintes.
Ouais. Écoute, en fait, on n'avait pas le choix. Et on s'est dit, si on continue à vendre nos slips à 40 balles, en fait, on va continuer à perdre 10% et on n'invente pas l'argent. Et on va, à nouveau, on va mettre la clé sous la porte. On l'avait jamais mis, mais... Et du coup, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on baisse le prix, et il faut qu'on trouve la solution industrielle. Et c'est ça qui a débloqué le truc. Et en fait, la solution industrielle, et ça, c'est un vrai sujet de fond, elle vient, par définition de l'industrie, elle vient du volume. Si tu dis à une usine, fais-moi 400 000 pièces, bah, l'usine, elle va acheter les machines, elle va modifier son plan de production, elle va structurer ses équipes pour réussir à sortir ses volumes et aller beaucoup plus vite. En production, quel que soit le produit, hein, le temps, c'est de l'argent. C'est très simple. Avant, on fabriquait les produits par 5000, des jaunes, des verts, des bleus, des ceintures différentes, des étiquettes différentes. Donc à chaque fois, tu coupais la chaîne de prod. Ah merde, il nous manque l'étiquette, ah merde, il nous manque le jaune. Donc on perdait du temps. Là, on fait que du bleu marine, un seul modèle et des gros, gros, gros volumes. Donc on achète mieux la matière, on achète mieux l'élastique et on a investi dans des automates. Donc je vous invite, vous êtes tous les bienvenus. Tous les vendredis, l'usine Bonne Nouvelle est ouverte à Aubervilliers. Il y a les journées du patrimoine qui arrivent. Franchement, je vous mets au défi de réussir à fabriquer un slip de vos propres mains. Et normalement, les gens y arrivent. On a gagné du temps et donc du coup sur chaque étape. Et à la fin, on est venu diviser le coût en deux. Donc là, on a acheté les slips 12-13 euros. On les achète 5 ou 6 euros aujourd'hui parce qu'on a automatisé les étapes et massifié. Et en vrai, on n'a pas réinventé la poudre. Juste, dans ce métier, depuis 30 ans, on est parti fabriquer au Portugal, en Afrique du Nord, en Chine, parce qu'on est parti avec les patronages sous le bras, fabriqués beaucoup moins cher, avec des gens qui étaient payés pas cher. Là, on s'est dit, en fait, on va faire le truc difficile, qui est d'essayer d'industrialiser le produit. Et on a réussi. Et notamment, ça rejoint la question, c'est que j'ai réussi à le faire grâce à Léa, qui nous a rejoint, parce que moi, j'ai jamais foutu les pieds dans une usine textile. Et elle, à l'inverse, elle a bossé pendant 20 ans pour la grande distribution, pour les Lafayette, pour Monoprix, pour Carrefour, pour fabriquer leurs produits dans les usines asiatiques. Donc elle a dit, mais putain, c'est un délire ces usines en France, ils veulent rien faire, ils sont trop chers, ils sont mous, on va les secouer. Et donc, elle a réussi à les secouer.
Bonjour, moi c'est plus une question pratique. Quand vous avez quitté votre job chez General Electric, c'est ça ? Comment ça se passe, enfin, le jour zéro ? Bon, même si j'attends pas plein de détails ou quoi que ce soit, mais même financièrement, comment vous avez fait pour avoir les fonds instantanément et puis ensuite administrativement ? Est-ce que c'était aisé de le faire ou pas du tout ? Merci.
Très bonne question, importante. Donc moi, je suis sorti d'école, j'habitais encore chez mes parents, chez General Electric, donc j'avais pas tellement de charges. Quand je démissionne de chez General Electric, je suis toujours chez mes parents, et je démissionne, et j'avais un peu de thunes de côté parce que j'étais en stage chez Price, j'étais très très bien payé, ça c'était magnifique, donc, mais j'avais quelques milliers d'euros de côté. Et je me fais embaucher chez Bio C'est Bon, donc là je suis sur un salaire à 40 000 euros brut. Et à la fin, je sors à 45 ou 46, donc je gagne un petit peu ma vie et je n'ai pas de dépenses. Et je suis parti en rupture conventionnelle de chez Bio C'est Bon. Donc ça aussi, hein, c'est un vrai coup de pouce du système français. Donc il y a beaucoup de dérives hein, de voitures conventionnelles qui financent beaucoup de voyages en Thaïlande. En tout cas, dans mon cas, j'ai démarré le slip grâce à la rupture conventionnelle. Donc pendant 15 mois, j'avais 60% de mon salaire, 70% de mon salaire chez BioCbon pendant 15 mois. Et donc j'ai dû, pendant 15 mois, bah, j'étais au chômage, donc j'avais un truc qui n'était pas la route. Pendant 12 ou 15 mois supplémentaires, je me suis payé 1500 balles par mois. Et ensuite 30. Et c'est seulement avec la première levée de fonds que je suis revenu à... Donc du coup, là, c'était quelle année? C'était 2015. Donc j'avais... que je dis pas de conneries. 30? Non, j'ai des conneries. Okay, ouais, c'est à 30. 30, là, je me paye un premier salaire à 30K d'entrepreneur avec la première levée de fonds. Pas faire ça pour gagner des ronds. Hein. C'est... je sais pas comment tu le vis. Mais... En tout cas, ouais, c'est une vraie question importante et de bah, bien calculer ce temps-là parce qu'on n'invente pas l'argent. Et ça revient à la question aussi des cofondateurs. C'est super de démarrer à plusieurs, mais si vous êtes 5 potes à vouloir monter le truc, en fait, brut chargé par personne, il faut sacrément faire du chiffre d'affaires pour que la boîte puisse payer chacun de vous 4, 5, 6.
J'ai une question un peu moins intelligente. Est-ce que vous portez vos propres caleçons ?
Alors, je suis à deux doigts de faire ce qu'on appelle te slipper. Donc, c'est un truc qui revient beaucoup, mais je ne vais pas le faire. Mais oui, je porte tous les produits de chez nous, slip, caleçon, chaussettes, plusieurs fois par jour. J'ai le plaisir d'essayer des trucs vraiment moches, des trucs un peu mieux, mais parfois des trucs moches.
Bonjour. Moi, j'avais une question pour dans 10 ans. Est-ce que vous pensez que la marque, elle va devenir très internationale ou qu'elle va vraiment rester confidentielle, on s'entend, mais vraiment franco-française ?
Je pense que dans 10 ans, elle sera franco-française toujours, parce que ce qu'on est en train de construire sur la base de notre usine, c'est le projet de l'usine des Français. On veut fabriquer, mettre sur le point une usine de 5000 m² qui est capable de fabriquer évidemment tous les slips français de la Terre, mais capable de prendre les marchés publics et de refabriquer et de montrer que c'est possible de fabriquer en France. Et l'international, c'est super, mais en vrai, dans quel pays ça va mieux marcher ? Démarrer à l'international, c'est la douane, la livraison, la langue, la logistique, la culture locale. On fait 10% du chiffre à l'inter. Notre premier pays, c'est les US. C'est trop bien, c'est sexy. Je suis allé à Los Angeles plusieurs fois, c'est trop cool. Mais en vrai, on va dépenser de l'argent et on ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, cette marque qui aujourd'hui est connue deux tiers des Français, si on la met au bon prix, si on arrive à vendre un slip au même prix que les autres, au même prix que Calvin Klein, à 45 les trois, je pense qu'on peut vraiment construire un truc canon qui a un sens pour les Français. Et à la fin, mais je finirai peut-être par ça, si c'est la dernière question, vous et nous, hein, je m'inclus avec vous, mais on a vraiment une responsabilité sur le sens qu'on donne à notre travail. Les écoles de commerce, on doit embarquer, gérer des gens et donner du sens aux gens avec qui vous allez bosser. Ça peut vous paraître bullshit ce que je peux vous dire, mais je peux vous dire que c'est sacrément difficile. Et que la responsabilité, elle est chez vous. Chacun de vous, droit dans les yeux, vous allez devoir gérer des gens, les embaucher, les virer, dire des trucs faciles, dire des trucs difficiles, célébrer des réussites et relever après les échecs. Mais le travail, moi je suis convaincu dans ce bordel, quand vous allez dans les usines, en fait les gens ils sont fiers de leur travail. Et dans les usines, souvent en fait, ils ont des frères, des sœurs, des cousins qui bossent dans la boîte. Et le travail, en fait, on a tous envie de se dire... quand est-ce que je peux sortir, partir en vacances ? Mais en vrai, c'est 70% de notre temps à tous. Donc, est-ce qu'on décide d'en faire un truc bien où vous allez donner du sens, faire des projets de ouf, embarquer et être fier de vous ? Ou est-ce que vous allez passer au travers ? Et en 2035, vous regardez ce slide et vous direz « Putain, ce con de mec du slip, il avait quand même raison sur certains trucs. » Donc, encore une fois, vraiment, je paierais cher, très, très, très cher pour être à votre place. Alors, méritez-le. Et putain, soyez fiers de ce que vous faites. Décidez, mais soyez fiers de ce que vous faites. Merci beaucoup.